Nous sommes conscients, nous savons que Dieu a une volonté, c'est clair. Nous savons aussi, par des textes bibliques, que la volonté de Dieu, selon ce que dira Paul aux Romains, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc, nous savons que sa volonté, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais ensuite, pour de ce qui est de la rechercher, de la prendre à cœur, de la comprendre, de l'assimiler pour pouvoir ensuite la pratiquer, là ça devient beaucoup plus problématique et c'est là qu'il va y avoir un espèce de flou artistique, beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'amalgame. Avant de parler de cette phrase « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », on va simplement, comme on a fait pour « que ton nom et que ton règne », on va simplement considérer l'exemple de Jésus qui en tout reste toujours le modèle parfait et le modèle suprême. On voit en regardant la vie de Jésus dans les évangiles que la volonté de Dieu est vraiment au cœur de ses préoccupations. C'est pour ça que je dis que le Notre Père est une prière qui nous engage. Jésus a donné le Notre Père, mais Jésus, ce n'est pas ce genre à dire « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Personne mieux que Jésus n'a pris à cœur l'honneur et la réputation du nom du Père. Personne mieux que Jésus n'a été cet ambassadeur que nous devons être aussi, mais pour Jésus ça a été plus loin parce qu'il a été la personnification, l'incarnation même du royaume sur cette terre. Et personne mieux que Jésus n'a pris à cœur la volonté du Père sur cette terre. Puisqu'on sait que Jésus n'a pas renoncé à certaines choses, il a renoncé à tout. Et bien plus que tout, il a renoncé à lui-même pour la volonté du Père. La volonté de Dieu, elle est réellement au cœur des préoccupations de Jésus. Jésus dit bien, Épître aux Hébreux, tu m'as formé un corps et j'ai dit, me voici pour faire ta volonté. Dès l'âge de 12 ans, Jésus dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Ici en Matthieu 6, c'est le verset 10, Jésus dit, quand vous priez, non pas pour que nous le répétions bêtement, mais il montre un grand principe, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, avant de parler de ce que Jésus dit ici, il faut parler de ce qu'il ne dit pas. Il faut enlever les idées reçues et les amalgames. Ici, Jésus ne parle pas de fatalisme. Beaucoup de chrétiens ont une conception fataliste de la volonté de Dieu. Et Jésus ne parle pas de nous. Il n'a pas dit que ta volonté soit faite dans ma vie, même si c'est vrai que c'est un autre aspect à considérer. Il n'a pas dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quelle est ta volonté pour moi ? Il y a des gens, ils cherchent la volonté de Dieu pour eux. En ce moment, frère, vous savez, moi je jeûne, je cherche la volonté de Dieu pour moi. Oui, Dieu a des plans, Dieu a des projets de paix, un avenir, de l'espérance. Il y a des choses qui sont préparées d'avance. Le ciel est plein de bénédictions pour moi. C'est une évidence. Mais ici, c'est un autre sujet. Jésus ne parle pas de la volonté de Dieu pour moi, ni pour vous d'ailleurs. Pas dans ma maladie, pas dans mon orientation professionnelle, non plus dans mes circonstances. Même si c'est vrai que dans la maladie, je vais me préoccuper de savoir quels sont les objectifs de Dieu. Pourquoi tu as permis cette situation, Seigneur ? Où tu veux en venir ? Quels sont tes objectifs dans cette maladie, cette épreuve, cette détresse, cette trahison, cette injustice, dans mes orientations professionnelles, dans ceci ? Seigneur, quels sont tes objectifs ? Où est-ce que tu veux en venir ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, il y a une volonté de Dieu pour nos vies. Mais là, ce n'est pas du tout ça. Jésus ne parle pas de vous. On est encore dans la première partie du Notre Père, et la première partie du Notre Père concerne Dieu, et pas nous. Nous, ça vient ensuite. Et comme je vous ai dit, on n'est ni inquiet, ni frustré, parce qu'on a eu la révélation du cœur du Père, et la révélation de tout ce qui nous attend dans le ciel. Donc, ici, Jésus ne parle pas de fatalisme, et il ne parle pas de la volonté de Dieu à notre égard. Il ne parle pas de la volonté de Dieu pour nous, il parle de la volonté de Dieu pour Dieu. Je répète, ici Jésus ne parle pas de fatalisme. Beaucoup de chrétiens pensent que prier que ta volonté soit faite, quand des chrétiens pensent que ta volonté soit faite, bon bah écoutez, vous savez moi frère, dans cette situation, moi au bout d'un moment je sais plus, hein, j'ai prié, Seigneur que ta volonté soit faite. Hein. C'est une façon de dire Inch'Allah. En fait, je ne prends pas à cœur, je n'aime pas, je ne cherche pas la volonté de Dieu. C'est fataliste, c'est résigné. Il y a aussi certains textes que les chrétiens comprennent mal. Lorsque, par exemple, dans le jardin de Gethsémané, Jésus dit « Seigneur, Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Ici, Jésus n'est pas en train d'accepter de façon résignée et fataliste une volonté qui le contraint, qui le dépasse, qui ne l'arrange pas ou quoi ou qu'est-ce. Non, ici, n'oublions pas que Jésus, personne mieux que lui, a pris à cœur la volonté de Dieu. Jésus a dit aussi « Personne ne prend ma vie ». J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Je donne ma vie. Et on voit ici qu'il n'y a pas de fatalité. Jésus a pris à cœur la volonté de son Père. La volonté du Père est devenue la sienne. Pas par imposition, par amour, par cet élan de cœur. Il a pris à cœur la volonté du Père. Frères et sœurs, le fatalisme, ça ne fait pas partie de l'expérience chrétienne. Peu importe ce qu'il y a devant moi, je ne peux pas être fataliste, je ne peux pas être résigné. Prier que ta volonté soit faite, ce n'est pas se résigner devant des circonstances de maladie, de chômage, de l'adversité, devant des circonstances contraires qui se dressent devant nous. Il n'y a pas de fatalisme dans l'expérience chrétienne. Alors face à nos difficultés et face à nos échecs, on a tous essuyé des échecs, dans les problèmes de la vie, face à la mort, face à la maladie, des maladies incurables. Il était souvent tentant de dire « Ah, c'était la volonté de Dieu ». C'est super facile de dire ça. C'était la volonté de Dieu. Mais ce genre de réflexion, on ne se rend pas compte qu'implicitement, ça tue la prière. « Ah, c'était la volonté de Dieu ». Mais pourquoi tu pries alors, excuse-moi ? Puisque tu es résigné, c'est fataliste, fais comme certaines religions, récite bêtement que ta volonté soit faite, puis va tailler ton jardin. Cherche pas Dieu, je veux dire, il n'y a rien à comprendre. Parce que dire « Ah, c'était la volonté de Dieu », c'est une façon de tuer la prière, c'est une façon de tuer la foi, et par cette simple expression, on peut tuer l'essence même, la raison même de la prière. Donc ici, Jésus ne parle pas de fatalisme, et deuxièmement, Jésus ne parle pas de nous. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que lorsqu'ils disent « que ta volonté soit faite », c'est de demander à Dieu ce qu'il a choisi, ce qu'il a prévu pour... allez, est-ce que c'est pour une guérison ? Est-ce que c'est pour une orientation professionnelle ? Est-ce que c'est pour un époux, une épouse, une direction quelconque dans la vie ? Non ! Bien que le Seigneur ait des plans, et il en a, et je l'ai dit, le ciel est rempli de bénédictions pour nous, si on avait ne serait-ce que l'ombre du commencement, de la révélation de ce qu'il y a dans le ciel pour nous, je vous l'ai dit, l'Église, elle serait pleine à craquer tous les mardis. Alors oui, Dieu a des plans, Dieu a des projets, Dieu a une volonté pour ma vie, Dieu a des choses en réserve dans le ciel pour moi, bien plus que je peux penser ou imaginer, mais ce n'est surtout pas sur ce texte qu'il faut s'appuyer quand on parle de la volonté de Dieu nous concernant. Ici, Jésus ne parle pas de la volonté de Dieu pour nous, il parle de la volonté de Dieu pour Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. Pas dans mes projets, pas dans mes entreprises, pas pour mon lendemain, pas pour mes achats futurs. Alors, j'ai rien contre personne, mais il y a des chrétiens, ils ont aussi non seulement le chic de tordre le sens des Écritures, de prendre de l'Écriture que ce qui les arrange, et en plus, excusez-moi, de tout spiritualiser. Quoi. Je ne cherche pas la volonté de Dieu pour acheter une bagnole. Non, je suis désolé, non, non. Je ne cherche pas la volonté de Dieu pour acheter une voiture. Il me faut une voiture, je sais que je fais 20 000 bornes par an, j'ai besoin d'un diesel, j'ai besoin de ci. Si j'ai 5 000 euros, j'en ai pas 20 000. Si j'ai ci, si j'ai ça, ça se calcule, j'ai un taux d'endettement, j'ai ceci, j'ai cela. Je ne vais pas tomber dans une extrême en disant « Ah, si tu prends un crédit, c'est péché, etc. » Non, non plus. Puis en même temps, je ne vais pas dépenser à tort et à travers. Non, je ne vais pas spiritualiser. Seigneur, est-ce que je prends une Kia bleue ou est-ce que je prends une Peugeot verte ? Mais si tu aimes la verte, tu prends la verte. Prends celle où il y a 7 ans de garantie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et vous voyez, frères et sœurs, le problème, c'est que dans ce genre de cas, c'est qu'on est encore inconsciemment on est en train de détourner le fond même, la raison même d'exister, le fond du Notre Père, on est en train de le détourner pour le mettre à notre propre profit. Et on est, pardonnez-moi, on est encore en train de se mettre au centre et de voler à Dieu la place qui lui revient. Cette prière concerne l'avenir du royaume sur la terre et la volonté de Dieu concernant son royaume ici-bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça concerne l'avenir du royaume, la volonté de Dieu au sujet de son royaume ici-bas. Et Jésus ici veut simplement nous amener à considérer la volonté de Dieu et comme Jésus lui l'a fait, à nous y consacrer. Mais le regard est décentré, détourné de nous-mêmes et nous ne nous regardons pas nous-mêmes dans cette prière. Nous regardons ce qu'il y a autour de nous. Nous regardons ce qui se passe sur la terre. D'accord ? Et pardonnez-moi, pas notre nombril. De toute façon, je n'ai pas besoin de regarder mon nombril. Je sais tout ce qu'il y a dans le ciel pour moi. Donc c'est clair, c'est réglé, c'est bouclé. Merci Seigneur. Priez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est chercher, sonder, écouter le cœur de Dieu. C'est connaître ses intentions, ses motivations, ses objectifs, ses fardeaux, sa vision. C'est prendre à cœur ses joies, ses peines, ses motivations, sa volonté, ses plans, ses projets pour cette terre. Sur la terre, sur cette terre. Je veux être attentif aux exigences de mon Père Céleste, de sa volonté, pour les affaires de cette terre qui concerne son royaume. Voilà ce que ça veut dire. Et au final, c'est quand même assez simple. Et cette tâche, elle n'est pas réservée juste à Jésus. Elle n'était pas réservée seulement aux apôtres ou aux pasteurs maintenant. Non, non, c'est comme Jésus, notre maître, le modèle de chacun de nous ici, de pouvoir dire, comme dans Hébreux, je ne l'ai pas cité, Hébreux 19, pour ceux qui notent, Hébreux 10, verset 9, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » C'est ça l'idée. Quand Jésus parle de la volonté de Dieu qui est accomplie dans le ciel, c'est intéressant de considérer que Jésus ici établit un contraste. Parce qu'on sait que dans le ciel, la volonté de Dieu est accomplie immédiatement, sans résistance, sans détournement, sans perversion, sans obstruction. Jésus est en train de montrer à ceux qui l'écoutent comment la volonté de Dieu dans le ciel est accompli de manière parfaite et comme par hasard. Comme c'est accompli de manière parfaite, c'est marrant comme le ciel marche super bien, excusez-moi l'expression, et que c'est très harmonieux. Dieu dans le ciel, lorsqu'il dit quelque chose, est servi par des anges, il ne rechigne pas devant la tâche ni devant leur mission. L'Épître aux Hébreux encore, chapitre 1er verset 14, l'Épître aux Hébreux dit que ce sont des esprits au service de Dieu. Dans le ciel, ça marche super bien parce que tout le monde est au service de Dieu et sa volonté est parfaitement accomplie. Et moi, dans cet élan de cœur, dans cet élan d'amour, je vais avoir envie que ça se passe aussi bien sur la terre que dans le ciel. Mais dans le ciel, ceux qui servent Dieu le servent promptement. Et moi sur la terre, je vous l'ai dit, le Notre Père, c'est une prière qui m'engage, c'est une prière à vivre, c'est une prière aussi, on va le voir, par laquelle on s'offre. Seigneur, je ne veux pas rechigner, je ne veux pas ignorer, je veux vraiment prendre à cœur ta volonté. Jésus l'a fait, je veux le faire aussi. Malheureusement, pas besoin de s'étaler sur ce point, il suffit de regarder. On sait que sur la terre, la volonté de Dieu est plutôt pas accompli. On sait aussi que même au sein du peuple chrétien, pardon d'être dur, la volonté de Dieu est parfois beaucoup plus utilisée que accomplie. Et est-ce que je vais trop loin en disant que parfois ou souvent, on se sert de Dieu plus qu'on ne le sert. C'est sûr. Beaucoup sont indisposés, indisponibles, pas le temps. Et Jésus, en établissant ce contraste, veut amener non seulement ses auditeurs et les auditeurs que nous sommes à avoir cette conscience de ce qui se passe dans le ciel et de l'harmonie qui en découle, et nous amener aussi à être conscients que la volonté parfaite et légitime de Dieu, malheureusement, est contestée, entravée, détournée sur la terre, ralentie par toutes sortes d'obstacles. Alors, étant conscient que la volonté parfaite et légitime de Dieu est sans cesse bafouée, contestée, détournée, utilisée sur cette terre, et que je ne peux pas changer les autres, mais au moins, moi, je peux m'offrir. Moi, je peux dire, Seigneur, je me mets à ton service, je m'offre, je me mets à ta disposition pour accomplir ta volonté. Et pour ce faire, c'est logique, je vais commencer à abandonner la mienne, je vais commencer à renoncer à ma volonté, comme Jésus a pu le faire, pour me préoccuper de la sienne. Pas de la sienne dans ma vie, de la sienne sur la terre, d'accord ? Comment, Seigneur, ma vie peut être au service de ta volonté ? Comment ma vie peut servir ta volonté sur cette terre ? Et c'est pour ça que j'ai dit chaque mardi, je l'ai répété, je ne suis pas un perroquet, je ne suis pas amnésique, c'est volontaire. La prière du Notre Père est une prière, oui, qui nous élève, oui, on le verra, qui nous enrichit, oui, qui nous engage, oui, elle est à vivre. Mais le Notre Père est aussi une prière par laquelle on s'offre. Si vous faites attention à Romains 12, le chapitre de la consécration, Romains 12 dit bien, c'est Paul qui le dit, « Je vous exhorte littéralement, Paul a dit, je vous presse, j'insiste, je vous presse, à cause des entrailles de miséricorde, je donne une autre version que second, à cause des entrailles de miséricorde de Dieu pour vous, je vous presse de vous offrir vous-même tout entier à Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Il y a donc un lien direct de cause à effet entre l'offrande de ma vie et cet aspect discerné, clair, limpide, de la volonté de Dieu. Cette prière, c'est une offrande, c'est celle de ma vie, parce qu'il y a un lien étroit entre l'offrande et la volonté de Dieu. En d'autres termes, si on s'offrait plus, la volonté de Dieu serait beaucoup moins obscure. Et souvent, les chrétiens, dans le domaine de la volonté de Dieu, sont comme devant une espèce de gigantesque montagne en se disant « Mais comment est-ce qu'on peut s'y retrouver ? Comment est-ce que... Ah, c'est compliqué la volonté de Dieu. » Non, c'est pas compliqué. Les gens qui sont pleinement offerts à Dieu, ils voient très bien. C'est clair. Ils ont dans le cœur des chemins tout tracés. Il y a un lien étroit entre l'offrande et la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus a accompli la volonté de Dieu, du Père, plus que n'importe qui d'autre ? Personne l'a accompli aussi bien que lui. Parce que personne ne s'est offert comme lui. L'exemple modèle d'offrande, c'est Jésus. Il y a un lien entre la qualité de l'offrande et la qualité de la volonté de Dieu, discernée, révélée, etc. À quoi ça servirait de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si je ne me mets pas à la disposition de Dieu ? Me voici pour faire ta volonté. J'aime beaucoup ce texte, on le connaît tous, dans le livre des Actes, où il est dit que David, le fils d'Isaïe, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Et à quoi ça servirait si je ne suis pas engagé, si je ne suis pas investi, si je ne me suis pas offert, si je ne me suis pas disposé? Si je ne suis pas concerné, le problème de majorité de chrétiens en France aujourd'hui, c'est le manque d'engagement. Aujourd'hui, ce qui caractérise, je le dis avec beaucoup de peine, sans ressentiment, sans cruauté, sans reproche, sans méchanceté, je servirai Dieu jusqu'à mon dernier souffle, je crierai, je prêcherai, tant que Dieu me permettra, il n'y a pas de souci, je le ferai avec amour. Mais l'amour n'est pas aveugle et on veut être réaliste. Le problème numéro un des Français chrétiens, des chrétiens français aujourd'hui, de l'Église de France, c'est le désengagement. On n'est pas concerné. Ah, s'il y en avait un qui était concerné par la volonté du Père, c'était bien Jésus. Si je ne suis pas concerné, offert, investi, engagé, disposé, j'en reviens à une récitation fataliste. Seigneur, j'ai bien compris que ce n'était pas de ma vie dont il était question. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Je passe à autre chose. Ça veut dire, ben, Seigneur, fais ce que tu peux, hein, débrouille-toi. C'est fataliste pour lui. Seigneur, tu feras ce que tu peux pour accomplir ta volonté. Finalement, tu es Dieu, tu es souverain, tu vas bien te débrouiller. Tu vas bien trouver une solution. Moi, chaque fois que je lis Notre Père et tant d'autres prières dans la Bible, je vous l'ai dit, je sens la ferveur, l'engagement de cœur de ceux qui ont prononcé ces mots. Ce n'étaient pas des mots à prononcer, ni celle-ci, ni aucune autre prière. C'était réellement, c'était véritablement une prière engagée qui était vraiment vécue de cœur et une prière par laquelle il y avait cette offrande, cet abandon de notre volonté à celle de Dieu. Juste quelques mots pour finir, puisqu'on parle de la volonté de Dieu. Vous voulez bien ouvrir avec moi rapidement, s'il vous plaît, l'évangile de Luc. Et j'aimerais, au travers d'un court texte que vous connaissez bien, évidemment, vous montrer que si on n'abandonne pas notre volonté, si on ne prend pas à cœur la volonté de Dieu, on manque aussi toutes sortes de bénédictions, on manque la force, le secours qu'il veut nous communiquer, le soutien d'en haut. Luc chapitre 22, verset 39, c'est Jésus à Gethsémané. Luc chapitre 22, verset 39, après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Et là, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de résignation. C'était l'acceptation délibérée, joyeuse et passionnée d'une volonté supérieure et excellente. Verset 43, « Alors », et j'aime beaucoup ce petit mot, « alors », c'est au moment où Jésus a dit « Je préfère ta volonté », alors, c'est à ce moment-là que le secours divin est descendu par l'intermédiaire de cet ange, alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Le fait de renoncer à notre volonté, quand enfin on arrête d'opposer toujours à Dieu nos plans, nos choix, nos priorités, nos raisonnements, notre agenda, notre expérience, nos conceptions, notre éducation, et on m'a toujours dit que, et on m'a toujours dit si, et pourquoi ce serait à moi de faire ça, et pourquoi c'est pas lui qui le ferait, et j'ai pas que ça à faire. Et quand on arrête de lui opposer tout ça, et que dans cette, non pas résignation, mais dans cette soumission joyeuse, volontaire, passionnée, parce que je sais qui est mon Père et je sais ce qu'il y a dans le ciel, on n'oublie jamais ça. Dans cette soumission passionnée et volontaire, libre, ah, là je peux recevoir d'en haut. Et Jésus, à ce moment-là, a reçu la force, le secours et le soutien nécessaires. Dieu ne me laisse pas me débrouiller dans l'exercice de sa volonté. Il pourvoit, il m'enrichit, il me fortifie. Et il ne me donne pas ce dont j'ai besoin pour accomplir sa volonté à l'instant T. Il me donne, il m'enrichit, et je suis ensuite, par l'avenir, constamment enrichi. Quand, avec Anne, nous avons quitté notre carrière, puisque Anne était fonctionnaire, moi j'étais fonctionnaire, et nous avons ressenti fortement l'appel de Dieu. Alors là, je vais donner un exemple pastoral, je parle de moi, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines, la volonté de Dieu. Lorsque nous avons quitté nos carrières, on a vendu la maison, etc., on a tout laissé, on a tout bouclé, et pour aller s'occuper d'une église dans laquelle on savait qu'on allait souffrir, on y allait pour souffrir, on le savait, on n'a pas souffert tout le temps, mais le début, on savait que ça allait être très très compliqué. Je bénis Dieu de ce que Dieu ne m'a pas imposé. Il ne m'a pas courbé, il ne m'a pas forcé. J'ai jamais été résigné à faire sa volonté. Dieu a ce truc exceptionnel, il faut le comprendre parce que c'est un père. Dieu a réussi en me travaillant pendant des mois, pour peut-être pas dire des années, et Anne aussi, en nous travaillant mutuellement, à nous amener à avoir cette attitude de cœur, parce que la volonté de Dieu est liée à une attitude de cœur et pas à une imposition céleste. À cette attitude de cœur, Dieu m'a amené à avoir envie de sa volonté. J'avais envie de faire ce que lui, il voulait. Et en fait, il ne me l'a jamais imposé. C'est que sa volonté est devenue la mienne. J'ai pris sa volonté à cœur au point qu'elle devienne la mienne. Et même quand des pasteurs m'ont dit « T'es fou ? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Il ne faut pas que tu ailles là-bas, il y en a qui sont plus expérimentés que toi, etc. Ton truc, je ne le sens pas, est-ce que tu te rends compte ? Il faut être raisonnable, il faut être sage, il faut être machin, il faut être truc. Je sais bien qu'il faut être sage. » Mais il faut aussi obéir à Dieu quand il nous montre quelque chose de clair. Et le Seigneur ne nous a pas laissé nous débrouiller, mais il a pourvu. Et ce à quoi il a pourvu ne m'a pas seulement servi au moment où j'en avais besoin. C'est un enrichissement de la personne de Dieu, du Saint-Esprit, de sa force, de sa connaissance. On est enrichi de Dieu dans sa volonté et ça m'a servi et préparé pour d'autres choses pour plus tard. Et je bénis Dieu de ce que sa volonté, il ne me l'impose pas, il ne me force pas. Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un dictateur. Pourquoi les gens, ils ont du mal avec la volonté de Dieu dans le monde évangélique ? Parce que le premier point, le Père, ça reste encore très très obscur. Merci Seigneur, il nous a fortifiés, il a pourvu à nos besoins physiques, terrestres, matériel, spirituel, ministériel, et il nous a donné bien plus que ce que nous avions besoin, ce qui nous a servi non seulement pour ce que nous avons besoin, mais aussi pour tout le reste après. Parce qu'on n'oublie pas que Jésus a dit « Tout le reste vous sera donné par-dessus. » Et bizarrement, dans la difficulté, demandez à Anne, je vous le dis, elle comme moi, combien de fois on ne comprenait pas, on s'est senti littéralement, on s'est senti porté comme ça. Des fois j'étais là, j'étais dans l'église, même des fois des mois et des années après, je me disais, mais qu'est-ce que je fiche là Seigneur ? Comment je suis arrivé là ? Comment je suis arrivé là ? Et parce qu'on a vraiment senti cette main, on a été porté et Dieu a pourvu. Et même dans la difficulté, on a pu expérimenter sa paix. On a pu expérimenter sa joie, l'amour, un enrichissement de sa personne. On a appris la douceur, on a appris l'humilité, on a été brisé, on a appris à aimer, on a appris à marcher au pas du troupeau. On a appris. Et est-ce que nous, finalement, on y est pour quelque chose dans tout ça ? Ben non, c'est juste sa grâce. C'est juste sa grâce. Il y a juste à un moment le fait de prendre à cœur cette volonté de Dieu. Et je sais qu'il y aura une rémunération. J'aime beaucoup cette parole. Je vous ai parlé de joie. J'aime beaucoup cette parole de Jésus dans Jean 4. Vous savez, quand on cède notre volonté à celle de Dieu, pas pour nous, je réinsiste, pour lui, pour ses œuvres sur la terre. Quand on cède notre volonté à celle de Dieu, vient, avec tout ce que j'ai cité, vient nécessairement une dimension de joie. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs degrés de joie. La joie du salut, c'est le béaba normalement. La joie du baptême dans l'esprit. On peut faire l'expérience d'une guérison, d'un exaucement, d'une bénédiction. Il y a cette dimension de joie d'avoir été exaucé. Il y a la joie de la communion fraternelle. J'espère que vous êtes vraiment profondément heureux quand on se retrouve. En tout cas, moi, oui. Il y a différents degrés de joie. Et je ne vais pas tout citer, ce n'est pas mon étude, ce n'est pas le but ce soir. Mais Jésus, en Jean 4, dit à un moment, ma nourriture, c'est-à-dire ce qui va me rassasier, ce qui va contribuer à mon bien-être, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus se nourrissait, il se rassasiait de la volonté du Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui accomplit la volonté de Dieu connaîtra toujours une dimension de vie supérieure. une dimension de joie supérieure, une dimension, une qualité de vie, un bien-être supérieur. Il est rassasié. La volonté de Dieu, Paul le dit, je l'ai cité, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alors on va pas se mentir, est-ce qu'elle a un coût ? Bien sûr, elle a un coût. Le coût, c'est le renoncement à la mienne. Mais je sais, je réinsiste, je sais qui est mon Père. Je sais ce qu'il y a dans le ciel pour moi et je sais que ce à quoi je renonce n'est rien en comparaison de tout ce qui m'attend dans sa volonté sur la terre. Et j'aime énormément cette phrase de Jésus, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » À ce moment-là, pour être plus précis, les disciples ne connaissaient pas cette dimension. Oh, ils l'ont connue très vite, ils y sont très vite venus. Parce que dans les Actes des Apôtres, on voit que la volonté de Dieu, c'est devenu la grande affaire de leur vie, la grande préoccupation de leur vie. Mais à ce moment-là, Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas encore. Cette nourriture, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah Seigneur, mon Père, toi qui es dans le ciel, je veux que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne sur cette terre et je veux être ton ambassadeur. Et voici ma vie, je te l'offre. Afin que ta volonté soit faite sur la terre, aussi bien, aussi vite et aussi efficacement qu'elle l'est dans le ciel. Amen.